Solers, on passe à François Mauriac. François Mauriac, vous dites que son bloc-notes est un chef-d'œuvre. Il y a évidemment Bordeaux qui vous rapproche. Il y a évidemment Mozart qui vous rapproche. C'était un grand amateur de...
Absolument.
De Mozart.
À une époque où c'était pas du tout évident.
Oui, c'est vrai.
On ne jouait pas beaucoup Mozart. Il y a eu le premier festival après la Seconde Guerre mondiale, mais Mauriac me racontait toujours, parce que je l'ai bien connu quand même, à quel point Mozart avait été foudroyant dans sa vie au moment où il a eu son opération de gorge. Qui lui a donné cette voix, vous savez, absolument extraordinaire, oui, inévitable. Voilà. Oui. Et donc, c'était comme si Mozart lui avait permis d'avoir une autre âme ou une autre voix. Oui. Et c'était vraiment une passion. Oui. Il en parle très très bien.
Et Aragon?
Aragon, c'est tout à fait autre chose. C'est une voix d'une autre trempe. Enfin, alors, c'était quelqu'un qui s'écoutait beaucoup, qui déclamait beaucoup, qui était extrêmement séduisant, mais qui songeait beaucoup à l'effet qu'il était en train de produire. Pour tout vous dire, j'ai vu quelquefois quand même, on arrivait chez lui et tout de suite il vous lisait un poème. Terminable, c'est pas ça, c'est-à-dire. Et alors, on aurait pu d'ailleurs aller prendre un verre au coin pour se réussir à revenir, il aurait continué, il ne se serait pas rendu compte qu'on était en train d'être parti. Mauriac, c'est tout à fait le contraire. C'était quelqu'un de très, 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 très discret, très précis et très drôle, surtout. Très drôle. Aragon n'était pas tellement drôle. Il était, c'était une sorte de pompe. Enfin, c'était quand même un grand cardinal de l'Église, concurrente.
Oui, c'est ça. Alors, Claudel, vous dites que c'est un porc.
J'ai une sympathie pour Claudel d'abord parce que je trouve qu'il est trop méconnu, que sa prose surtout très méconnue. Son journal est de toute beauté, de toute lucidité. Par exemple, quand en 1935, il parle d'un mouvement, du mouvement hitlérien comme étant une sorte d'islam qui est en train de se développer, ce qui est quand même assez étrange. Ouais. Et puis, ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est un personnage absolument, mais 15 ans en Chine, vous comprenez, quand même.
Ça ouvre l'esprit.
Voilà. 15 ans de Chine, où il a vécu sa grande passion. Claudel a souffert d'avoir le corps qu'il avait. Voilà, c'est ça, à mon avis. C'est un génie qui a souffert d'avoir ce corps-là. Il lui préférait probablement avoir le corps de Rimbaud, quoique à ce moment-là, ça l'aurait obligé à se laisser trop serrer de près par Verlaine. Enfin, vous voyez, il y avait ce côté. Gide était beau. Enfin, Gide était séduisant. Et Claudel, au fond, était avec ce corps qu'il avait.
Mais quelle langue?
Alors, bon, vous prenez Connaissance de l'Est, par exemple, aujourd'hui. C'est pour ça que je dis porc et père. Le texte sur le porc, par exemple, je n'omets pas que le sang de porc sert à fixer l'or, voilà. C'est un texte absolument extraordinaire. C'est une sorte d'autoportrait, d'ailleurs. Parce que là, vous avez un côté un peu comme ça, vraiment porcin ou buffle, comme vous voulez. Il y a une chose qui me paraît étrange. Il y a deux choses qui me paraissent étranges chez Claudel. Quand il a commencé à mourir, il a dit, laissez-moi seul, je n'ai pas peur. C'est quand même, pas mal du tout. Et puis, de se faire enterrer, là, ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel. Hein. Donc, c'est la semence de résurrection, vous comprenez? Oui. Alors là, il y a ça. Il y a le fait d'avoir été converti, en quelque sorte. Alors, le pilier de Notre-Dame de Paris, il y a donc Rimbaud. Bien sûr, la lecture de Rimbaud, un de ceux qui a eu l'oreille la plus étonnante pour Rimbaud. Claudel, sachant le latin, sachant le grec, écrivant sur la Bible, deux énormes volumes. Il se sert trop du latin, d'ailleurs. Mais enfin, ça fait rien, ça fait quand même 3000, 4000 pages de commentaires de la Bible. Enfin, c'est quand même un monument, vous comprenez? Bon. Alors, tout le monde déteste Claudel, par principe. Moi, je l'aime bien parce que il sort absolument des normes. C'est une énorme tortue. Qu'il nous faut redécouvrir.
Mais le plus grand, et on va finir peut-être avec lui, Philippe Solers, pour vous, c'est Shakespeare?
Ah, je crois que là, c'est... Dante n'est pas mal.
Oui.
Cervantes, à tout. J'ai des faiblesses extraordinaires. Mais Shakespeare, alors là, oui, c'est quelque chose d'énigmatique. Vous voyez, parce que, vous voyez, on dit un pays, on dit l'écrivain de ce pays. Bon, il y en a toujours un, disons deux. Bon, pour l'Italie, c'est Dante, pour l'Angleterre, c'est Shakespeare, parce qu'un progrès sur Shakespeare, il y a Joyce, mais il était irlandais. Bon.
Mais en France, il...
Alors, en France, vous en avez plein.
Trop, il y en a trop, oui.
Non, c'est pas jamais trop. c'est le pas assez de lecteurs qu'il faut. Vous avez en France, c'est la littérature indubitablement, c'est probable, la plus riche. et la plus contradictoire à la fois. Vous avez des œuvres qui ont l'air d'être absolument contradictoires. Vous allez faire à longueur de temps, autrefois, Racine et Corneille, Sartre et Cabu, Aragon et Breton, en fait, tout ce que vous avez de tout, Claudel et Gide. Et voilà, donc c'est la littérature la plus riche en termes de talents qui ont l'air contradictoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abandonner les préjugés et de surplomber, si c'est possible, tout ça, pour montrer que c'est la même énergie qui parle.
Voilà. Est-ce qu'il vous aura manqué un contradicteur, vous, Philippe Sellers?
Écoutez, au point où j'en suis, je n'ai pas vraiment de contradicteur, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mauvaises réputations à mes trousses. ça aboie pas mal contre moi, mais en dehors du sujet, parce que c'est pas une tour d'ivoire, en vrai, c'est une tour de contrôle, c'est une tour aérienne qui consiste à, si je convoque, je veux bien être critiqué sur texte, voilà. Mais être critiqué parce que on m'a vu à la télévision ou que j'ai une réputation comme ci ou comme ça. L'université ne m'aime pas beaucoup, ce qui est dommage parce qu'elle sera bien obligée d'en passer par moi un jour. Mais il faut mourir pour ça. Je ne suis pas pressé. Le problème, c'est que c'est un pays institutionnel. Vous savez, la France terriblement conformiste au fond. On le voit de plus en plus aujourd'hui dans la passivité générale. Donc voilà, c'est un pays qui n'aime pas forcément ces bons écrivains. Je vais vous dire, la littérature est un sport de très haut niveau. Quand on est un mauvais écrivain, ou un moyen, ou voire même un journaliste tout simplement, parce que les journalistes écrivent beaucoup de livres, on n'a pas intérêt à ce que le niveau soit haut. Sans quoi la différence apparaît. Et quand on est un bon écrivain, ou plutôt très bon même, on a intérêt à ce que le niveau soit haut. Voilà, parce que à ce moment-là, justement, il y a des déclivités qui s'ensuivent. Donc si on noie le poisson avec 660 livres, dont 3 seulement survivront, ou 4, bon, en étant optimiste. Vous voyez, c'est ça la question. C'est un sport de haut niveau. Alors, c'est un art de haut niveau. Mais non, tout le monde est écrivain, tout le monde peut écrire des livres, tout le monde publie ça. Et ça, franchement, c'est cocasse, parce que, à la limite, alors moi, je veux bien dire que tout le monde est écrivain, sauf moi. Bon, voilà.
Philippe Sellers, on va terminer avec Cecilia Bartoli, si vous le voulez, dans Vivaldi.
Sordoglio, non è un po' sordoglio, se
Voilà, Cécilia Bartoli qui réveille la France, endormie, assoupie, selon Philippe Solers. Eh bien, merci, Philippe Solers, d'être venu ce soir dans Passion Classique. Un grand merci aussi aux auditeurs qui ont adressé leur message à Philippe Solers pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci également à notre réalisatrice, Lucille Metz. Ce soir à minuit, vous pourrez écouter la rediffusion de Passion Classique avec Philippe Solers. Tout de suite, vous retrouvez Laure Maison pour vos soirées classiques. Et à l'occasion du Salon du Livre, eh bien, je serai demain en compagnie d'un nouvel écrivain, Éric-Emmanuel Schmitt. Bonne soirée à tous sur Radio Classique.